Focus. Le sas de décontagion émotionnelle. Je laisse ma place à une professionnelle des émotions. Moira Mikolajczak, docteur en psychologie, professeur à l'Université catholique de Louvain, pour vous expliquer comment vous désintoxiquer émotionnellement. Parole à l'experte. Si la contagion émotionnelle présente divers avantages, notamment lorsque nous sommes le contaminant, par exemple, augmentation de notre pouvoir de conviction ou de séduction sur autrui, elle comporte, lorsque nous sommes le contaminé, un risque. Celui de nous vider, de nous épuiser émotionnellement et souvent même à notre insu. Être contaminé par les émotions négatives d'autrui, anxiété, stress, colère, tristesse, etc., peut consommer de l'énergie. Beaucoup d'énergie, quelquefois même. Théoriquement, la contagion des émotions positives, émerveillement, joie, fierté, gratitude, etc., devrait compenser, renverser la vapeur négative. Mais les gens partagent moins volontiers leur joie que leurs difficultés. Afin d'éviter d'être usé, voire consumé par les émotions des autres, il est important de pouvoir disposer d'un pare-feu pour les filtrer et éviter d'être dévasté par elles. Ce pare-feu doit être efficace, car elles peuvent s'immiscer en nous en quelques millisecondes seulement. Il doit aussi être par endroits perméable, car il n'est pas question, évidemment, d'éviter toutes les émotions d'autrui. La contagion a ses avantages également. Nous verrons ensemble comment déterminer ce qui doit être filtré ou non, et comment faire lorsque des émotions non désirées ont franchi le pare-feu. Avant cela, je voudrais vérifier une petite chose avec vous. Êtes-vous plutôt hypersensible ou imperméable en matière de contagion émotionnelle? Si vous êtes du genre hypersensible, no stress. Nous verrons ensuite quel est le protocole à suivre pour vous décontaminer lorsque c'est nécessaire. Le test. Comme il existe des personnes réceptives à l'hypnose et d'autres non, il existe des individus plus facilement contaminables que d'autres. La contagion émotionnelle est un phénomène inné, mais elle n'opère pas avec la même intensité chez tous. Par exemple, les personnes très émotives, qui éprouvent leurs émotions intensément, par exemple, quand elles aiment, c'est à la folie, quand il y a de l'enjeu, elles stressent énormément, sont plus facilement contaminables par les états émotionnels des autres. Les femmes, comparées aux hommes, le sont aussi. Il existe différentes explications concernant cette différence de genre et la question n'est pas tranchée. Une première explication veut que les femmes soient par nature, biologiquement parlant donc, plus portées vers les autres, comme vous l'a déjà expliqué Christophe. C'est ce qui les rendrait plus sensibles aux émotions d'autrui. Une autre est que les groupes dits « inférieurs » dans notre société, les femmes sont malheureusement encore trop souvent considérées comme le sexe faible, sont mieux capables d'identifier les émotions des autres. Il est plus utile à l'esclave de pouvoir identifier les émotions de son maître que l'inverse. Cette meilleure capacité des femmes à identifier les émotions d'autrui les rendrait ensuite plus perméables à celles-ci. Et vous? À quel point êtes-vous perméable? Un chercheur de l'université d'Hawaï a créé un petit test, encore un dans ce livre, permettant de mesurer votre potentiel à être contaminé. Retrouvez ces exercices, figures et schémas dans le PDF disponible dans votre bibliothèque. Interprétez votre score. Si vous avez moins de 25 points, vous avez le profil imperméable. En gros, vous faites partie des rares personnes qui sont relativement peu contaminables par les émotions des autres. En dehors des cas où l'émotion de l'autre est liée à quelque chose qui vous touche personnellement, vous vous sentez peu affecté par ces états émotionnels. Cela a des avantages, vous gardez plus facilement votre sang-froid et votre esprit critique, mais également des inconvénients. Vous vous sentez parfois en dehors du coup, et les autres vous perçoivent comme quelqu'un de froid et distant. Si vous avez entre 26 et 36 points, les états émotionnels d'autrui vous laissent rarement indifférent. Vous êtes affecté par la tristesse, le stress et ou la colère des autres, mais vous arrivez cependant à faire la distinction entre leurs émotions et les vôtres. Vous êtes empathique, sans être une éponge. Si vous avez un score entre 37 et 48 points, vous avez le profil hypersensible. Autrement dit, vous vous imbibez très facilement des émotions d'autrui. Peu importe que l'émotion soit celle de quelqu'un de votre entourage, d'un étranger à l'autre bout de la planète ou encore d'un acteur à travers un écran de télévision, vous vivez les émotions d'autrui comme si c'était les vôtres. Cela a des avantages. Vous pouvez facilement vous mettre dans la peau des autres, y compris des gens que vous ne connaissez pas, et cela vous permet de comprendre leurs intentions et leurs besoins, mais aussi des inconvénients. Vous êtes hypersensible, cela vous coûte énormément d'énergie et peut quelquefois même agacer autrui. Faut-il à tout prix chercher à se décontaminer? La contagion a incontestablement ses avantages. Il serait fâcheux que nous devenions tous des robots insensibles. La contagion émotionnelle a de bons côtés. En effet, le fait que la contagion émotionnelle soit innée, automatique, et surtout qu'elle ait persisté à travers les âges, indique qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement utile à la survie de l'individu et de l'espèce. La contagion de la peur accélère par exemple la communication du danger. La contagion de la colère facilite la mobilisation collective face à l'ennemi. La contagion de la détresse favorise l'aide à la personne en souffrance. La contagion de l'enthousiasme permet de soutenir l'effort collectif vers l'atteinte d'un but, etc. Si votre détresse, votre colère ou votre enthousiasme n'étaient pas contagieux, vous auriez moins de chances d'être aidé. Si vous ne pouviez être contaminé par la peur ou le dégoût d'autrui, vous seriez plus vulnérable face au danger. La survie de l'individu et de l'espèce requiert donc que nous puissions communiquer certaines émotions rapidement aux autres et que les autres puissent faire de même à notre égard. C'est tout le sens de la contagion émotionnelle. Se couper de la contagion émotionnelle reviendrait à s'ostraciser, autrement dit à s'éloigner des autres, du groupe. D'ailleurs, les personnes très peu sujettes à la contagion émotionnelle sont en général moins bien intégrées socialement. Il ne serait donc pas bon de rester indéfiniment dans le sas de décontagion émotionnelle, à moins de vouloir vivre en ermite. Mais l'excès nuit en tout. Même si la contagion émotionnelle a ses avantages, trop de contagion est nuisible, tant à soi qu'aux autres. Certaines personnes sont par exemple très affectées par les journaux télévisés. Elles ressentent à tel point la détresse des affamés, la colère des opprimés, la peur des persécutés, qu'il leur est impossible de regarder un JT sans être déprimé durant les heures qui suivent. Dans l'incapacité de se protéger de la détresse d'autrui, elles n'ont pas d'autre choix que d'éviter de regarder les nouvelles. Elles préservent ainsi leur bien-être, mais au détriment de la prise d'informations du réel. Or, savoir ce qui se passe dans le monde est important, non seulement pour s'ajuster aux événements, évolutions, mais également pour pouvoir participer aux échanges sociaux. Une trop grande perméabilité aux émotions négatives d'autrui nuit aussi à la réflexion, au raisonnement. Les zones du cerveau dédiées aux émotions et au raisonnement ont un effet inhibiteur réciproque. En clair, l'activation de l'une tend à provoquer la désactivation de l'autre. Il est donc très difficile de réfléchir correctement sous l'emprise d'une forte émotion. Ainsi, lorsque quelqu'un nous transmet sa colère ou sa peur, nous pouvons perdre tout esprit critique. C'est ainsi que nous pouvons nous mettre à détester l'ex d'une collègue, les professeurs de nos enfants, sans les avoir jamais rencontrés. Un excès de contagion émotionnelle peut aussi nuire au bon fonctionnement de systèmes sociaux qui nous sont chers, comme le couple, la famille, l'équipe de travail. S'ils sont trop perméables aux émotions, les conjoints de personnes stressées peuvent vivre un vrai cauchemar. Côté boulot, trop de contagion est nuisible également. Prenez le cas des entreprises en restructuration. Il n'y a rien de pire que la contagion de la peur et de l'insécurité pour détériorer l'ambiance. Mauvaises humeurs et rumeurs remplacent le plaisir de travailler ensemble. La confiance mutuelle se rompt. Les gens se retranchent et les problèmes s'accumulent. Notez enfin une chose. Si vous êtes trop réceptif aux émotions négatives, cela peut très sérieusement altérer votre altruisme. Des études montrent par exemple que si l'on est hypersensible à la détresse de quelqu'un, on préfère plutôt fuir. C'est normal. Si on est submergé par la détresse de l'autre, on ne peut être là pour l'aider. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes les plus empathiques ne sont donc pas toujours les plus altruistes ou les plus aidantes. Et vice-versa. Les personnes qui s'enfuient devant une personne en détresse ne sont pas toutes des égoïstes insensibles au malheur d'autrui. Un sas de décontagion. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il est important de pouvoir réguler notre perméabilité aux émotions d'autrui. C'est ci-après ce que nous allons voir ensemble. Précisons d'emblée qu'il ne s'agira pas de construire une forteresse ou une carapace nous rendant insensibles aux émotions d'autrui, mais plutôt de développer un régulateur fiable qui nous permettra de moduler de manière flexible notre épongéité émotionnelle. Je m'adresse ici à toutes les éponges hypersensibles. Tantôt nous pourrons ouvrir les vannes et nous laisser toucher, tantôt nous devrons les refermer. Je vais donc vous proposer un sas de décontagion émotionnelle afin de vous décoller des émotions des autres lorsque c'est nécessaire. Plus exactement, je vais vous proposer deux sas. Le premier est à utiliser uniquement lorsqu'une seule personne vous a contaminé d'une émotion toxique. Que vous le soyez par le stress de votre partenaire ou de votre patron, par la détresse d'un ami ou de votre maman, par la colère d'un enfant ou d'une collègue, les étapes de décontagion sont les mêmes. Le second, que j'ai appelé déminer, D-E-M-I-N-E-R, chaque lettre représente une étape à suivre, s'applique dès lors que la contagion émotionnelle se joue dans un contexte de groupe auquel vous appartenez, c'est-à-dire quand elle concerne plus de deux personnes. Chaque fois, vous devrez suivre cette étape, dans un ordre précis. Le premier sas, une personne vous contamine. 1. Détecter l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? Certains d'entre nous identifient très facilement leurs émotions. Ils peuvent détecter des émotions de faible intensité et déterminer aisément s'ils sont stressés, agacés, frustrés ou un mélange de tout cela. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et pour 25% de la population, c'est très compliqué. Ces derniers ne perçoivent qu'ils ressentent une émotion que lorsqu'ils sont au bord de l'explosion ou de la décompensation. Certains même ne l'identifient qu'après coup, après avoir agi. J'imagine que si je l'ai frappé, c'est que j'étais en colère, jalouse. J'imagine que si j'ai craqué, c'est que j'étais à bout. Si on ne détecte pas ces émotions, on ne peut pas en influencer le décours, ni modifier leurs conséquences. 2. À qui appartient cette émotion? Est-ce mon émotion ou suis-je contaminé par l'émotion de quelqu'un d'autre? Nous sommes perpétuellement contaminés par les émotions d'autrui. Il est donc crucial de faire la part des choses entre nos émotions et celles des autres, même si ces dernières sont devenues les nôtres, dans un second temps. Qui est stressé? Qui a peur? Qui est en colère? Une de mes amies, à l'origine plutôt joviale, s'est muée en une femme en colère quelques années après son mariage. Son mari travaillait sous la responsabilité d'un boss tyrannique et abusif. Tous les soirs, il racontait à sa femme ce qu'il avait vécu et observé durant la journée. Il était à juste titre très en colère et contaminait progressivement son épouse. J'ai vu mon amie se transformer au fil des mois en quelqu'un qu'elle n'était pas. Amère, dure, cynique. Ils se sont aussi mis à boire plus que de raison. Cela a duré 3 ans, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience que cette colère n'était pas la sienne, mais celle de son mari. Que c'était à lui de faire quelque chose s'il ne supportait pas les agissements de son boss. Qu'elle pouvait être ponctuellement là pour lui, mais pas être le réceptacle quotidien de sa colère. 3. Pourquoi suis-je contaminé? Divers cas de figure augmentent la contagion émotionnelle. On est ainsi plus facilement contaminé par l'émotion de l'autre, Quand on est proche de lui ou d'elle, s'il s'agit de votre conjoint, votre enfant, votre meilleur ami, quand l'émotion de l'autre est forte, votre conjoint rentre très stressé, quand on a vécu quelque chose de similaire ou qu'on aurait pu être à sa place, vous vous rendez aux funérailles de la mère d'une collègue alors que vous venez de perdre la vôtre. Quand l'événement concerne non seulement l'interlocuteur, mais aussi le groupe auquel on appartient, un ami vous appelle pour vous informer de l'attentat à Charlie Hebdo. Quand l'événement qui a déclenché l'émotion chez l'autre touche à une de vos valeurs fondamentales. La contagion est maximale quand ces cinq conditions sont réunies, mais une seule suffit déjà à augmenter notre susceptibilité à la contagion. Ainsi, si un ami partage avec vous sa colère d'avoir été traité injustement, vous serez d'autant plus touché que la justice est une valeur fondamentale pour vous. Si un autre partage sa peine d'avoir été trahi, vous serez d'autant plus remué que l'honnêteté et la loyauté sont importantes à vos yeux. Et si un troisième vous explique son irritation de voir les orangs-outans exterminés par les cultures d'huile de palme, vous serez affecté à la mesure de l'importance que vous donnez à l'écologie. Les situations de contagion émotionnelle nous renseignent ainsi souvent sur nos valeurs. 4. Écoutez pour diminuer la contagion. S'il est un paradoxe, c'est bien celui-là. Pour diminuer la contagion émotionnelle, il est souvent plus utile de parler de l'émotion que de l'éviter. Imaginons que Paul, le conjoint de Cécile, rentre stressé du travail. Pour éviter d'être contaminé, Cécile évite d'interroger Paul sur les raisons de son état. Elle pense ainsi échapper à la contagion. Mais elle se trompe. Le problème de la contagion émotionnelle est qu'elle ne procède pas de l'intellect. Elle ne nécessite pas que nous comprenions la raison de l'état émotionnel d'autrui. Elle requiert uniquement que nous soyons sensoriellement au contact de l'émotion de l'autre, c'est-à-dire que nous voyions son expression faciale, que nous entendions le son de sa voix ou que nous sentions sa tension. Ainsi, même si elle ne sait pas pourquoi Paul est stressé, Cécile le voit et le sent. Et cela suffit à la contaminer. Pour échapper à la contagion émotionnelle d'un proche, il faut que sa tension, à lui, diminue. Et pour ce faire, la première technique est de l'écouter de manière attentive, empathique et non jugeante. Cécile demandera donc à Paul pourquoi il est tendu. Paul le lui expliquera et cela prendra peut-être une demi-heure. Mais si Paul se sent vraiment entendu, sa tension va diminuer progressivement, plus vite que si Cécile n'avait rien dit. Attention, comme nous l'avons vu ci-dessus, il ne s'agit pas d'écouter l'autre tous les soirs pendant 2 heures, mais plutôt d'offrir à l'autre un espace d'écoute de qualité. Mieux vaut la qualité que la quantité. 5. Aider l'autre à réguler ses émotions. Diminuer la contagion émotionnelle implique de diminuer l'intensité émotionnelle de la personne qui nous contamine. Souvent, le simple fait de l'écouter avec attention, empathie et bienveillance suffit. Notez que peu de personnes allient ces trois qualités. Certaines écoutent d'une oreille distraite, en faisant autre chose, en pensant à autre chose. D'autres ne prennent pas vraiment le temps de comprendre l'autre. Elles plaquent leur propre vécu sur l'autre. Elles interprètent. Elles posent tellement de questions que l'autre ne se sent pas écouté dans ce qu'il ressent. D'autres, encore, ne peuvent s'empêcher d'être moralisatrices. « Je te l'avais dit, c'est un peu de ta faute. Si tu n'avais pas fait ça, il n'aurait pas fait ça. » Les recherches montrent qu'en réalité, très peu d'entre nous savent vraiment écouter. Si l'émotion ne diminue pas en dépit d'une écoute de qualité, il sera alors nécessaire d'aider l'autre plus activement à réguler son émotion. On peut par exemple l'aider à trouver une solution, l'amener à voir la situation sous un angle nouveau, le distraire ou l'aider physiquement à se détendre. Sport, bain, massage, câlin, en fonction de notre degré de proximité avec la personne concernée. Il est à noter que cette aide plus active ne sera efficace et appréciée que si elle a été précédée par une phase d'écoute de qualité. En effet, si on propose trop vite une solution, Si on amène trop vite à voir la situation sous un angle plus positif, l'interlocuteur ne se sentira pas vraiment écouté. Son émotion risque alors d'augmenter plutôt que de diminuer. Et la contagion fera de même. 6. Refuser de porter l'émotion de l'autre à sa place. Comme évoqué ci-dessus, on peut aider l'autre à trouver une solution, mais on ne peut en aucun cas la trouver et l'implémenter à sa place. Faire les devoirs à la place de son enfant, trouver un travail pour un ami déprimé qui n'en cherche pas lui-même. Certaines personnes ont l'art de vous communiquer leurs problèmes pour que vous les portiez ou solutionniez vous-même. Il s'opère alors un déplacement de la souffrance. Ils vont mieux, mais vous allez moins bien. Il est donc essentiel de se rappeler que si on peut se laisser toucher par la détresse, la colère, le stress de l'autre, on ne peut pas le porter à sa place. Le cas de la poule, apprenant à ses poussins à monter les marches pour accéder au jardin, est exemplaire à cet égard. La poule n'aide pas ses poussins à monter l'escalier, pas plus qu'elle ne reste à côté d'eux. Elle leur montre comment monter les marches, puis elle les encourage du haut de l'escalier. Elle les regarde essayer et continue à les appeler, malgré leurs tentatives infructueuses. Elle peut passer parfois jusqu'à une demi-heure en haut à attendre que chacun de ses poussins ait compris comment franchir les marches. Il est à noter aussi qu'il peut être utile dans un certain nombre de situations de conscientiser la personne à l'origine de la contagion émotionnelle de ses effets. Il ne s'agit en aucun cas de culpabiliser l'autre, simplement de l'amener à prendre conscience que son émotion vous contamine. Cela est particulièrement vrai pour le stress. Les émotions de la famille peur, stress, anxiété sont les plus importantes pour notre survie. Ce sont par conséquent les plus contagieuses. Être dans la même pièce que quelqu'un de stressé suffit à déclencher l'activation de nos propres axes biologiques de réponse au stress. Il est donc avantageux d'amener les personnes stressées, anxieuses, à prendre conscience de leur état et de ses répercussions sur autrui. Cela peut être fait très simplement par un « te voir si stressé me stresse » dit sur le ton de l'humour. Mais il ne faut pas craindre de le dire, que ce soit à son enfant, son conjoint, un parent, un ami, et même son patron, en y mettant les formes. Cela permettra à la personne de prendre conscience de son état de tension et la stimulera à gérer son stress. 7. Diminuer l'intensité de l'émotion contaminée. Pour clore le processus, il importera également de diminuer ses propres manifestations émotionnelles à la suite de la contagion. Faire la part des choses entre l'émotion de l'autre et la sienne. Rendre à l'autre ce qui est à l'autre. Se concentrer sur soi et prendre du temps pour soi. Respirer profondément et faire éventuellement une micro-relaxation. Une micro-relaxation est une procédure de relaxation d'une durée approximative d'une minute. Il existe différentes formules associant de manière variée centration sur soi, respiration, étirement et ou relâchement de certains groupes musculaires. Ma préférée est la suivante. Elle se pratique debout, assis ou couché. On commence par prendre une grande inspiration, expiration. Ensuite, on se focalise tour à tour sur chaque partie du corps. Si on note une tension, on relâche le muscle incriminé. On passe ainsi en revue le front, les mâchoires, la bouche, desserrer les lèvres et les dents, les épaules et les trapèzes, les bras, les mains, le dos, le ventre, les cuisses, les mollets et finalement les pieds et les orteils. Le second sas. Déminer. Contexte de groupe. 1. Dédramatise. Les épisodes de contagion sont nécessaires à la cohésion du groupe. Un des effets de la contagion émotionnelle est qu'elle augmente la communion émotionnelle. Les membres du groupe ressentent la même émotion, la peur, l'enthousiasme, la colère, en même temps. À l'exception des cas où l'émotion engendre des conflits dans le groupe, cette communion renforce la cohésion du groupe. Comme l'a montré Émile Durkheim, l'un des fondateurs de la sociologie moderne, la communion émotionnelle augmente le sentiment d'appartenance collective. D'ordinaire, l'identité individuelle prime sur l'identité collective. Les personnes se perçoivent d'abord comme individus uniques, puis comme membres d'un groupe. Je suis moi avant d'être belge. Vous êtes vous avant d'être français. L'état de communion émotionnelle inverse cet effet. L'identité collective prime sur l'identité individuelle. Les personnes se perçoivent d'abord en tant que membres du groupe, puis seulement en tant que personne unique. Lors des attentats de Charlie Hebdo, vous étiez français, et même pour certains, vous étiez Charlie, avant d'être vous. Lorsque des jurés sont en colère, ils sont jurés, avant d'être eux. Bref, la contagion émotionnelle est utile à l'unité du groupe. Il ne faut donc pas systématiquement chercher à la prévenir ou à l'empêcher. Il ne faut passer à l'étape 2 et se décontaminer que lorsque la contagion, communion émotionnelle, a des effets délétères. Par exemple, quand la peur fait perdre tout sang-froid, quand la colère occulte l'esprit critique, ou que le découragement ou le stress crée une tension qui détériore l'ambiance du groupe. 2. Efforce-toi d'accepter la tension. Il est tout à fait normal d'être contaminé par les émotions des autres. Le problème vient toutefois du fait que, lorsqu'on est en groupe, qui plus est dans un espace restreint, la contagion d'émotions négatives, stress, peur, découragement, fait souvent naître des tensions. Les épisodes de tension sont ainsi récurrents. La bonne nouvelle est que ce n'est pas un drame. Mieux, c'est bon signe. Le systémicien Étienne Dessoy assure ainsi que la bonne santé d'un groupe, couple, famille, équipe de travail, se voit à sa capacité à passer avec fluidité par les différentes étapes du cycle de l'ambiance. Comme illustré dans le schéma disponible dans votre bibliothèque, à une extrémité du cycle de l'ambiance, on a la fusion, l'harmonie. À l'autre, on a la rupture, la crise. Entre les deux, on a le désaccordement, qui va de la fusion à la rupture, et le réaccordement, qui va de la rupture à la fusion. Un groupe sain est plus souvent du côté de l'harmonie, mais doit être capable de traverser le cycle, d'être en désaccord, en tension, puis de se réaccorder. Les groupes qui sont uniquement dans la fusion et qui évitent maladivement les tensions ou les conflits redoutent en fait de ne pas être capables de se réaccorder après la rupture. Si vous êtes dans un groupe momentanément tendu, acceptez l'existence de cette tension. Elle fait partie de la vie du groupe. C'est même signe qu'il est sain. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il faille laisser la tension perdurer. Il est évidemment nécessaire de pouvoir la dissiper. 3. Moi d'abord. Décontamine-toi avant de vouloir décontaminer autrui. Dans un avion, quand les masques à oxygène tombent du plafond, il convient de s'occuper de soi avant de pouvoir aider son voisin. Autrement dit, il faut impérativement mettre son masque à oxygène avant de le mettre à son voisin ou à son enfant. Instinctivement, empathiquement serait-on même tenté de dire, on aurait tendance à vouloir d'abord aider la personne en détresse à côté de soi, d'autant plus si cette personne est son enfant chéri. C'est un réflexe empreint de noblesse que celui de vouloir prémunir, aider ce qu'on aime avant soi-même. Mais dans la réalité, en voulant agir de la sorte, nous risquons tout simplement de nous asphyxier, et donc, au final, de n'être d'aucune aide pour l'autre. En matière de contagion émotionnelle, c'est exactement la même chose. Nous devons pouvoir réguler nos propres émotions avant d'être en mesure de réguler efficacement les émotions nocives des personnes autour de nous. Bref, nous devons pouvoir respirer émotionnellement avant de pouvoir faire respirer correctement les autres, le groupe. 4. Isole-toi et respire. Le problème de la contagion émotionnelle est qu'elle ne procède pas, nous l'avons déjà dit, de l'intellect. Elle requiert uniquement que nous soyons sensoriellement au contact de l'émotion de l'autre, c'est-à-dire que nous voyions son expression faciale, que nous entendions le son de sa voix ou que nous sentions sa tension. Le meilleur moyen de vous décontaminer de l'émotion du groupe est ainsi de prendre un break, de passer dans la pièce d'à côté, de vous isoler temporairement et sensoriellement de l'émotion des autres. Si ce n'est pas possible, isolez-vous psychiquement. Faites un break mental. Et une fois isolé, physiquement ou psychiquement, du groupe, respirez. Respirez profondément. Et prêtez attention à votre ventre qui doit gonfler à chaque inspiration et dégonfler à chaque expiration. Cette manière de respirer, dite diaphragmatique, modifie la balance d'oxygène CO2 et réduit la tension. Respirez donc et passez à l'étape 5. 5. Nomme l'émotion. Réfléchissez à présent. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que nous ressentons ? Peut-être que c'est évident pour vous, ou très compliqué. Les études montrent que certains d'entre nous identifient très facilement leurs émotions. Ils sont rapidement capables de déterminer, par exemple, s'ils sont stressés, agacés, frustrés, ou un mélange de tout cela. Pour d'autres, c'est plus difficile, comme nous l'avons déjà dit. Le problème est que si on n'est pas capable de détecter ces émotions, on ne peut pas influencer le cours des choses. Lorsqu'il y a une tension dans le groupe, il est important d'identifier quelle émotion se cache derrière celle-ci. Du stress ? De la peur ? De la colère ? Du découragement ? De la frustration ? Cela vous permettra de mieux comprendre l'origine de la tension. Ce sont aussi les prémices indispensables aux étapes 6 et 7. 6. Étudie la situation. Lors d'épisodes de contagion, on a souvent tendance à incriminer la personne qui a ressenti l'émotion en premier et qui a contaminé le groupe, ou alors celui ou celle qui n'a pas su gérer la contamination et qui a initié la tension, le conflit. Plutôt que de tomber dans ce travers qui ne fait qu'accroître le problème, essayez de comprendre ce qui s'est passé, puis de décomposer le schmilblick. Qui a ressenti l'émotion en premier ? Pourquoi l'a-t-il ressenti de manière si intense ? Pourquoi avons-nous tous été touchés par cette émotion ? Pourquoi certains craquent-ils ? Sont-ils plus fragiles ? Plus fatigués ? Identifier et comprendre cela va vous permettre de réduire votre propre activation émotionnelle. Pour deux raisons. D'une part, considérer les autres avec bienveillance va vous calmer, et d'autre part, réfléchir à ces questions va faire fonctionner votre cortex préfrontal, celui-là même qui réduit l'activation de l'amygdale, le siège des émotions. Les réponses à ces questions vont aussi vous donner les clés pour décontaminer le groupe à l'étape 7. 7. Rejoins le groupe et démine la situation émotionnellement explosive. Le meilleur antidote à une émotion négative est une émotion positive. Élémentaire, me direz-vous, sauf qu'on a tendance à l'oublier. Sachez que les émotions positives ont des effets physiologiques qui contribuent réellement à annuler les émotions négatives. Et le meilleur moyen de déclencher une émotion positive dans le contexte d'une émotion négative, c'est l'humour. Si vous le pouvez, faites rire les autres au moment de rejoindre le groupe. Si vous n'êtes pas un rigolo ou une rigolote par nature, ou si la situation ne prête vraiment pas à rire, revenez avec quelque chose de bon à manger. Surtout s'il est bientôt l'heure du repas. Il y a toujours plus de tension quand les gens ont faim. Remplir les ventres permet d'apaiser les esprits. Si aucune des deux solutions précédentes n'est envisageable, décrivez simplement la situation en prononçant de petites phrases simples, appelant au bon sens ou à la bonne volonté collective. « Bon, les gars, calmons-nous. On est tous tendus et cela vient probablement du fait qu'on est X, nommé ici l'émotion X, et sa cause, par exemple, découragé parce que... On va pas se disputer pour ça, ça ne sert à rien. » Pensez ensuite à la personne qui est la plus énervée et demandez-lui son avis sur quelque chose qui fera la quasi-unanimité dans le groupe. « Jean, penses-tu qu'on devrait aller manger maintenant ?» Ou « Jean, penses-tu qu'on devrait... » L'objectif est d'une part de valoriser cette personne, engendrer chez elle une émotion positive qui la calmera, et d'autre part, d'occuper son esprit à la réflexion, plutôt qu'à l'émotion. Dans le cas où il n'y a pas de tension, mais où l'émotion, par exemple la peur, le découragement, la colère, d'une personne est si forte qu'elle contamine le groupe, essayez plutôt de discuter à part, avec le patient zéro, comme l'appelle Christophe. C'est-à-dire la personne à l'origine de la contagion émotionnelle. Une fois qu'elle est raisonnée, amenez-la à raisonner les autres. Vous voilà désormais paré à faire face aux émotions toxiques, que celles-ci émanent d'une personne en particulier, ou qu'elles se soient manifestées au sein d'un groupe auquel vous appartenez.